Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous. Vous êtes bien sur RMC. Il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'actu, toute l'info en direct le matin, c'est sur RMC, c'est votre journal présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Le terrible mois de mars sur la route, bond de 31% du nombre de tués au volant, recrudescence de victimes, on va vous expliquer ça chez les 18-24 ans.
Comment expliquer cette hausse? On appelle juste après votre journal le vice-président de la Ligue contre les violences routières.
La violence chez les jeunes, le gouvernement veut sanctionner plus durement leurs parents, le projet de loi est en préparation. Et puis les sports, allumage ce matin de la flamme olympique. Emmanuel Macron met la pression sur les clubs de foot pour les JO, c'est au micro de RMC. Et Paris à Barcelone ce soir pour son quart de finale retour de Ligue des Champions.
La mortalité routière est donc fortement repartie à la hausse le mois dernier en France.
Oui, c'est un bond de 31% du nombre de personnes tuées sur les routes au mois de mars, comparé à il y a un an. Alors à l'époque, les chiffres étaient particulièrement bas, explique la sécurité routière. Elle fait surtout remarquer que les principales victimes sont les 18-24 ans. Ce week-end encore, dans le Tarn, Jean-Wilfried Forquest, une dramatique collision.
Une collision violente aux portes de Saint-Sulpice-la-Pointe en pleine nuit sur une départementale bordée de platanes. Un jeune de 22 ans tué sur le coup. C'est un drame pour les habitants de cette commune tarnaise.
C'est un gamin du village, c'est triste. Quand on fait la fête un peu le soir, eh bien, c'est malheureux, mais on en crève, quoi.
Et pour ce père de famille, cet accident mortel n'est pas très rassurant.
J'ai un enfant qui vient d'avoir le permis il n'y a même pas 6 mois et ça m'inquiète, c'est là. Chaque fois que je lui en parle, fais attention. Malgré cela, il y a quand même des accidents.
Selon Anne Navo, de l'association Prévention Routière, cette augmentation des accidents est liée à la vitesse et elle reproche au gouvernement d'avoir supprimé le retrait d'un point pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.
On voit bien qu'il y a une corrélation entre ce qui a été annoncé et le sentiment peut-être que finalement la vitesse, c'est pas si grave que ça. Les jeunes payent un lourd tribut sur la route, donc ça veut dire qu'on a une problématique sur les 18-24.
C'est pour cela que l'association est vivement opposée à l'obtention du permis de conduire dès l'âge de 17 ans.
Comment enrayer le phénomène de violence chez les jeunes après les agressions ces derniers jours à Montpellier, Viry-Châtillon, Romans-sur-Isère, ça c'était la semaine dernière, après les émeutes aussi de l'été dernier. Le gouvernement travaille donc à un projet de loi pour renforcer les sanctions contre les mineurs délinquants, mais aussi des sanctions visant leurs parents, selon les informations du journal L'Opinion, que le service politique de RMC est en mesure de confirmer, Cyprien Pézeril.
Pendant les émeutes l'été dernier, Éric Dupond-Moretti lançait aux parents, je le cite, « Tenez vos gosses ». Aujourd'hui, dans le texte qu'il peaufine, le ministre de la Justice entend durcir les sanctions contre des pères et des mères qui se soustraient à leurs obligations. En clair, si leur enfant commet plusieurs crimes ou délits, alors pour ses parents, ce serait 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende contre 2 ans et 30 000 euros jusqu'à présent. À cela pourront s'ajouter, toujours pour les parents, des travaux d'intérêt général. Leur absence aux audiences judiciaires serait aussi sanctionnée. Le gouvernement, qui envisage par ailleurs, dans le cadre de leur contrôle judiciaire, d'accueillir des mineurs délinquants la nuit dans des établissements dédiés. Enfin, le placement en internat, comme le disait Gabriel Attal cet hiver, de jeunes sur la mauvaise pente est toujours sur la table.
À 6h03 sur RMC aux États-Unis, Donald Trump dénonce une persécution politique et dit qu'il a un vrai problème avec le juge qui préside son procès à New York à 6 mois de l'élection présidentielle là-bas. Donald Trump qui est soupçonné d'avoir acheté le silence d'une ancienne star du porno en 2016. L'image de la soirée, elle nous vient de San Francisco, toujours aux États-Unis, le pont du Golden Gate, bloqué par des manifestants pro-palestiniens hier soir, 6 mois après le début de la guerre et de l'attaque du Hamas. La crainte tient de l'escalade au Moyen-Orient, malgré les appels à la retenue. Déclaration écoutée du porte-parole de l'armée israélienne, c'était cette nuit, qui promet une réponse à l'attaque de l'Iran visant Israël le week-end dernier.
Ce lancement de tant de missiles de croisière et de drones dans le territoire d'Israël sera accueilli par une riposte.
Et alors dans ce contexte, RMC, vous le révélez hier soir, une enquête au pénal est ouverte à Paris pour faire la lumière sur les incidents du 12 mars dernier à Sciences Po, dans la capitale, quand une étudiante juive, souvenez-vous, a été refoulée d'un amphithéâtre où se tenait une manifestation pro-palestinienne, soupçon d'antisémitisme, Lucille Pascanet.
Ce jour-là, l'amphithéâtre de Sciences Po est bloqué par des militants pour une conférence en soutien à la cause palestinienne. À la tribune, selon l'administration de l'école, des propos, je cite, accusatoires à l'encontre d'une association associations juives sont tenues. L'une de ses membres se voit refuser l'entrée. Elle assure que c'est parce qu'elle est sioniste, ce que démentent formellement les organisateurs, défendus par Maître Vincent Bengart.
Il n'y a eu absolument aucun espèce de manquement pénal. Cette étudiante n'a absolument pas été ciblée en raison de son appartenance religieuse. Si elle a pu être empêchée d'assister à cet événement, c'est qu'elle pouvait filmer, prendre des photos des personnes qui pouvaient participer à ces événements.
Des photos, des vidéos qui ont pu mener à du cyberharcèlement, assure l'avocat. Il y a un mois, Sciences Po a lancé une enquête administrative à laquelle s'ajoute aujourd'hui cette enquête pénale qui devra déterminer le déroulement exact des faits.
Ce qui est vraiment frappant dans le dossier, c'est l'emballement qu'il y a autour de cette affaire médiatique de la part de l'administration, de la justice. Il faut que les choses puissent s'apaiser et il faut dégonfler la bulle qui est en train de se créer et qui a mis lieu de l'instrumentalisation qu'on est en train d'en faire.
À l'époque, le gouvernement et même Emmanuel Macron avaient dénoncé des propos parfaitement intolérables, propos que l'enquête devra désormais établir.
Emmanuel Macron qui a pris tout le monde de court hier matin sur RMC en évoquant un plan B, même un plan C pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques si jamais ça devait se produire pour des raisons de sécurité. L'exécutif et les organisateurs ont répété toute la journée hier que cette cérémonie aurait bien lieu comme prévu sur la Seine. À propos des Jeux, plusieurs infos ce matin. D'ailleurs, d'abord, c'est à 11h que sera allumée la flamme olympique dans le berceau de l'olympisme à Olympie, en Grèce. Et alors, sur RMC, Emmanuel Macron met la pression sur les clubs de foot, notamment le Real Madrid, sans doute le prochain club de Kylian Mbappé, que le président espère bien voir au JO. Écoutez-le, c'était hier matin, après son interview sur RMC, au micro d'Apolline et de notre directeur général Karim Nedjari.
On va tout faire pour. Moi, j'ai confiance dans les clubs français et européens, si je puis dire. Vous savez ce que je veux dire? On a l'euro, c'est ça le problème. Je pense qu'il faut que les clubs jouent le jeu pour qu'on ait un grand spectacle. C'est une de mes craintes. Je suis d'accord avec vous.
Le Real Madrid aussi?
Exactement. Quand je parlais des clubs européens, c'était ça. Non, après, il faut que les joueurs se le mettent bien dans leur plan de charge et d'entraînement aussi. Parce qu'on a l'euro. J'espère qu'on va jouer jusqu'au 14 juillet. Et je le pense, je le veux. Et après, ils ont des reprises précoces pour beaucoup, donc il faut qu'on
vous avez parlé de Kylian Mbappé ?
J'en ai pas parlé encore avec lui, mais j'espère que son club surtout lui laissera.
Bah tiens, puisqu'on parle de Kylian Mbappé, il est attendu au tournant Kylian Mbappé ce soir, 21h, sur RMC, RMC Sport 1 pour le quart de finale retour de Ligue des Champions de Paris à Barcelone. Les Parisiens ont perdu 3-2 la semaine dernière au quart de finale aller. Ils joueront donc une partie de leur saison ce soir chez le Barça, pas au Camp Nou, le stade habituel, mais au stade de Montjuïc, Valentin Jamin.
Un stade plus petit, 50 000 places, moitié moins que le Camp Nou et plus impersonnel car la piste d'athlétisme repousse les tribunes à plusieurs dizaines de mètres du terrain, explique Joan Souroca, auteur d'un livre sur l'enceinte.
Il a été pensé comme un stade multisport, à la base en espérant accueillir les Jeux de 1936, pas pour le foot. La première année, les deux équipes de la ville y ont joué, mais elles n'ont pas aimé. Il y a aussi eu du cyclisme, du rugby et même des cérémonies religieuses.
L'autre club de la ville, l'Espagnol Barcelone, y a évolué de 1990 à 2009. Des finales de coupe ont eu lieu ici, mais l'ambiance est plus froide, les prix élevés, l'accès difficile. Résultat, seuls 17 000 socios s'y sont abonnés. Logique, pense Alex, supporter.
Les gens moins attachés n'y vont pas. Les socios doivent se signaler pour aller au match, puis le club décide de leur place. Ce stade fait vieux, l'acoustique n'est pas bonne et donc l'ambiance est bien moins chaude.
À Paris d'en profiter, car même si le stade olympique sera plein, le Barça est moins poussé qu'au mythique Camp Nou que les Catalans retrouveront en fin d'année.
Et à la même heure ce soir, à 21h, l'Atlético qui a gagné 2-1 à l'aller sera à Dortmund pour le match retour. Et vous n'êtes pas très sympa, puisque vous commencez déjà à chambrer Charles au 32-16.